Bueno, boa tarde e gracias pola vosa asistencia. En esta sesión do seminario Sentidos da Cultura contamos coa presenza de Michel Maffesoli, que nos interesa moito a diversos temas que foron surdindo xa ao fío de seminarios anteriores. A súa obra é ben coñecida, está dabondo traducida ao castelán e tamén ao portugués, nomeadamente en Brasil, e é un autor, como digo, ben coñecido dende se caixa a primeira obra que impactara no público lector en ciencias sociais e en filosofía, pois aquí en España era aquela lóxica da dominación dos anos 70, dos anos 70. E a partir de aí, pois, a súa producción, nomeadamente en derredor pois, dese eixo de crítica da modernidade dunha banda e doutra, da caracterización sociolóxica da posmodernidade, pois tivo toda unha serie de fitos, o tempo das tribos de Caixeixa, pois, a máis coñecida, que non a única. Non ten moito sentido pois, detallar aquí obras, entre outras cousas, porque nos acompañan hoxe pois autores galegos que teñen escrito obras sobre Michel Maffesoli, con Enrique Carretero, e mesmo estará conosco pois o director do grupo Compostela de Imaginarios, Xoán Luis Pintos, que coordinará a segunda parte do seminario dedicada precisamente ao debate. Si decir que na súa investigación aparecen, como decía, pois temas de grande interese, tanto nas súas obras iniciais como nas últimas, esa crítica do racionalismo e a contraposición dunha certa razón sensible, a crítica do contrato social e a filosofía social do pacto, pacto entendido como pacto emocional, a contraposición tamén dun certo catastrofismo, ao que se contrapón, pois, como digo, pois, unha posición máis vitalista. Unha recuperación da natureza frente á cultura, entendida ao xeito racionalista, un tema básico para este seminario, e, en definitiva, volve sobre eses temas unha e outra vez, acaba de sair a versión ao castelán dun dos seus últimos libros, Iconoloxías, que está en Editorial Península, no 2009, e mesmo, pois, en Matrimonio, unha obra recentemente saída en París, pois, aborda o tema do que denomina unha ecosofía. Estas relacións, polo tanto, da fractura do suxeito, da verdade, do traballo, da identidade, e tamén, o que xa se atopaba precisamente na súa visión das tribus, pois aquela idea da rede e da rede de redes, la actual. Por lo tanto, son temas, como digo, pois, moi pertinentes e esa razón que fixéramos a invitación para telo connosco e poder debater con él estas cuestións. O formato do seminario será, como sempre, unha primeira presentación, unha hora máis ou menos, 60 minutos, faremos unha pausa para o café e terá lugar pois, o debate. A intervención será en francés, contamos para o turno da quenda das preguntas con Cristina, que é a traductora que nos vai acompañar, máis xente presente na sala, pode botar unha man para que non queden cuestións no tinteiro. Por tanto, sin máis, pola miña parte, quedarlle a palabra e agradecer o esforzo por visitarnos e poder expoñer a súa perspectiva, pois doulle a benvida e a palabra. Vamos, Fule.
Oui, je vous remercie de cette invitation et je suis désolé, je parlerai en français. Et en plus, je ne vais pas dire exactement ce qui est là-dessus, parce que je n'aime pas parler à partir d'un texte écrit. Donc je vais donner quelques idées sur ce thème de postmodernité et culture urbaine. Et j'espère que on pourra en effet en discuter. Je tiens à vous remercier de cette invitation parce que c'est la première fois que je viens à Santiago de Compostelle. Et pour nous, toujours, Santiago, c'est un mythe, d'une certaine manière. Donc, j'espère que ce mythe va se conforter de nos discussions. C'est vrai que depuis toujours, depuis d'ailleurs mon premier livre traduit en espagnol, qui était mon premier livre en France, Logique de la domination, j'ai fait une critique du rationalisme. Mais cela ne veut pas dire que c'est une manière de conforter l'irrationalisme. Je veux être là-dessus très prudent. Ma position, puisque j'ai été formé à l'université de Strasbourg, dans une perspective très weberienne, puisque j'étais en particulier, j'ai eu les cours de Julien Freund à Strasbourg, c'était de dire qu'il faut réfléchir au non-rationnel et essayer de rationnellement penser le non-rationnel. Hein, ce pour éviter de dire qu'une réflexion sur l'imaginaire, ce n'est pas du tout une réflexion irrationnelle. C'est, si je redis ici deux concepts de l'école de Francfort, le fait que ce que j'ai développé en effet dans la raison sensible, c'était le fait que dans le fond, c'est le rationalisme qui est devenu un rationalisme instrumental, Zweckrationalität, qui était le grand concept de l'école de Francfort. Et je vous prie de m'en excuser, mais j'avais trouvé chez Ortega y Gasset, alors moi je ne sais pas quelle est l'image d'Ortega y Gasset en Espagne, mais j'avais trouvé chez Ortega y Gasset un concept très intéressant qui était le ratio-vitalisme. Et je m'inscris tout à fait dans cette perspective du ratio-vitalisme, c'est-à-dire à la fois allier, conjoindre ce qui est une de nos spécificités de notre espèce animale, la raison, mais en même temps enrichir cette raison d'un autre aspect de notre espèce animale qui est le sensible, qui est la vitalité, le vitalisme, etc. Voilà, hein, donc juste pour préciser ma sensibilité théorique qui, depuis longtemps, tourne autour de ces deux pôles. Je veux maintenir les deux pôles, la raison et les sens. Et je pense d'ailleurs que une des spécificités de la postmodernité va être le retour de cet émotionnel. Et que donc, d'un point de vue intellectuel, bien évidemment, eh bien, il faut savoir accompagner le retour de cet émotionnel pour éviter que cet émotionnel devienne de la barbarie. Et que c'est dans la mesure où intellectuellement on saura accompagner ce processus qu'on pourra éviter ce que je viens de dire. Alors, si j'applique cela au titre que vous m'avez donné, parce que c'est vous qui m'avez donné ce titre, postmodernité et culture urbaine, hein, donc je me soumets à votre ordre, à votre injonction en quelque sorte, mais après tout je vais y réfléchir. C'est vrai que alors mon hypothèse est la suivante. Autant la modernité a été dominée par le temps, l'histoire, et que c'est la caractéristique essentielle des temps modernes, autant la pré-modernité et pour moi la post-modernité vont être dominées par l'espace. Voilà ma thèse. En fond, dans ces deux grandes catégories, temps, espace, il y a eu quelque chose qui va privilégier le temps, c'est l'histoire, c'est la philosophie de l'histoire. Et soyons clairs, pour moi, la modernité, bien sûr, historiquement, on peut le voir à partir du XVIIe siècle. Mais à mon avis, la modernité, le fondateur de la modernité, si je suis un peu provocateur, c'est Saint Augustin. Et que la modernité n'est que la conséquence de la tradition judéo-chrétienne. C'est pour ça que je dis le fondateur, c'est Saint Augustin. C'est-à-dire ce qui fait qu'on va penser l'histoire du salut, qui va devenir après l'histoire stricto sensu, et qu'on va penser l'économie du salut, qui va devenir l'économie stricto sensu. Pour moi, c'est ça la modernité. Et c'est cette conception de l'histoire et cette conception de l'économie qui va mettre l'accent sur, encore une fois, le temps, le cheminement vers la cité de Dieu. Et dans le fond, la modernité commence dès le moment où on pense la cité de Dieu, Saint Augustin. Et que sur 2000 ans de temps, de Saint Augustin aux grands discours sociaux du 19e siècle, eh bien, il y a cette recherche d'une cité parfaite ailleurs. J'ai bien dit, ça peut être la cité de Dieu, ou ça peut être, dans la perspective marxiste, la société parfaite. Dans chacun de ces cas, il y a, dans le vrai sens du terme, cette espèce de mobilisation de l'énergie individuelle et de l'énergie collective pour atteindre un peu plus tard ce qui va être la vraie vie. La vraie vie est ailleurs. Elle n'est pas ici. Ici, ce n'est qu'un moment, la fameuse vallée de larmes, ce moment qu'il faut passer le plus rapidement possible pour accéder à quelque chose d'autre. Et du coup, il y a une force. Voilà ce qui serait, si j'emploie un mot de Michel Foucault, voilà ce qui serait l'épistémé moderne. Et quand je dis, si je reprends le mot de Michel Foucault, cette idée d'épistémé, c'est-à-dire une représentation et une application de cette représentation. Et dans le fond, l'organisation de la ville va être une organisation qui va être une organisation très provisoire. Puisqu'aussi bien, encore une fois, la vraie cité est un peu plus tard. Et on voit bien comment, en quelque sorte, voilà ce qui me paraît être, je dirais, l'imaginaire moderne. J'ai bien précisé, moderne, pour moi, c'est, encore une fois, quelque chose qui n'est pas simplement, qui ne débute pas au XVIIe siècle. Et pas simplement les temps modernes tels que les historiens vont qualifier la modernité. Alors, deux ou trois grandes caractéristiques de cet imaginaire. Dans le sens, pour moi, l'imaginaire, c'est un climat intellectuel dans lequel on baigne. C'est ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire que c'est le futur qui est la marque essentielle de cette temporalité. Et on voit bien comment, en quelque sorte, l'expression que j'ai dite, c'est cette mobilisation en fonction du futur. Puisque j'ai cité tout à l'heure le sociologue et politologue, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, Julien Freund, il montrait bien, en quelque sorte, comment ce qui était le propre l'essence du politique, c'était une essence qui reposait sur cette conception futuriste du monde. Encore une fois, il est un mot très simple qui caractérise d'ailleurs le politique et qui caractérise cette philosophie de l'histoire, qui est le mot « projet ». L'attitude projective dans le sens étymologique du terme, projectum en latin, le fait que, dans le fond, on jette un but en avant et par tactique et stratégie, on va arriver à ce but qui a été jeté. Projet. Et je dirais que voilà la première caractéristique qui, par après, va se diluer dans l'éducation, dans l'économie, dans le contrat social. Je dirais que ces divers éléments qui constituent les grandes institutions sociales sont des institutions projectives, hein, donc tournées vers le futur. Et le mot que j'ai employé, que j'ai dit tout à l'heure en parlant de l'économie, c'est peut-être ce qui caractérise cette grande culture moderne et d'une manière plus générale la culture occidentale. Le mot savant, c'est une sotériologie. C'est-à-dire il y a du salut. Il y a un salut plus tard. Un salut qui est individuel. Et je répète que cette grande idée de sotériologie, pour moi, c'est peut-être le concept de la modernité, c'est le concept de l'Occident. C'est bien sûr le fondement de la tradition judéo-chrétienne. Si on voulait être plus précis, il faudrait dire c'est le fondement de la tradition sémitique. Donc toutes ces religions du livre, les trois religions du livre, islam, enfin juif, chrétien, islam, reposent sur cette perspective sotériologique. Puisque j'ai cité saint Augustin tout à l'heure, il est une phrase qui résume exactement cette sensibilité théorique, une phrase de la Cité de Dieu en latin, « Mundus est immundus », le monde est immonde. Et le mundus, c'est intéressant, parce que le mundus, c'était le trou à ordures. C'était en quelque sorte là où on mettait les ordures. Et par parenthèse, on y mettait les ordures et les femmes, les nouveau-nés, les enfants féminins qu'on ne voulait pas. Donc on voit bien comment il y a dans ce mundus quelque chose qui est une dénégation ou une négation du ventre. Et le mundus et simundus de saint Augustin résume en quelque sorte cette espèce de mépris, moi je dirais, de stigmatisation de l'espace. Les historiens ont montré que les historiens du Moyen-Âge ont montré que ce mépris de l'espace, vous voyez pourquoi, hein, en fonction du monde à venir, en fonction de quelque chose de plus tard, faisait que dans les villes du Moyen-Âge, le seul édifice qui était un bel édifice, c'était la cathédrale, c'était l'église. Parce que là, en effet, la cathédrale était le symbole du monde futur. Et que tout le reste autour de la cathédrale, eh bien, était vraiment justement cette tradition qui était l'immonde. C'est-à-dire des ruelles, des petites rues, des quelque chose qui n'était pas valorisé. Et spatialement, la valorisation de l'église, et en particulier, bien sûr, de l'église cathédrale, était une cristallisation de la Cité de Dieu, de ce qui était à venir. Le reste avait peu d'importance. Voilà la racine de ce mépris de l'espace. Et on retrouve ce mépris dans toutes les grandes théories sociales du 19e et en particulier dans la tradition marxiste. Il y a une très belle formule de Marx qui est pour moi l'équivalent de celle que je viens de dire de saint Augustin, « Stadt Luft macht frei », l'esprit de la ville rend libre. C'est-à-dire que la ville, ce n'est pas de l'espace. C'est quelque chose où justement on n'est plus lié à l'espace. Et c'est en ce sens que dans la tradition marxienne, d'une manière large. Je dis Marx, moi je dirais, disons, tous ceux qui sont les grandes théories de l'émancipation du XIXe siècle, eh bien, ce n'est pas la terre qui importe. C'est la ville en tant qu'elle est de l'histoire, en tant qu'elle est une négation de la terre. La terre, c'est le paysan. Le paysan est esclave. Le paysan est lié à de l'espace. Et dans la question juive, quand il dit « Stadtluf macht frei », c'était vraiment pour montrer que, justement, la ville, ce n'était plus de l'espace. C'était quelque chose qui mettait l'accent sur l'esprit. Et on voit bien comment, je dirais, sur 2000 ans de temps, il y a ce que j'appelle, moi, cette stigmatisation de l'espace. Là, d'un point de vue historique, cette stigmatisation va aboutir dans les années 60 du siècle dernier à la manière dont les psychiatres vont considérer la schizophrénie. Et c'est intéressant de voir que pour les psychiatres, en particulier les psychiatres marxistes, je ne vais pas vous donner des références, mais moi je connais les références en France d'un certain nombre de psychiatres et importants. J'en cite un qui était Joseph Gabel, qui était le disciple de Georg Lukács. Et Gabel, qui était un de mes amis d'ailleurs, par ailleurs, mais pour lui, la schizophrénie, c'était une accentuation sur l'espace. C'est-à-dire quelque chose qui, dans le fond, ne permettait pas la bonne saisie de la dialectique. C'est-à-dire la bonne saisie de l'histoire. Et on avait là une position, bien sûr, qui était une position exagérée, mais en fait, dans le fond, la schizophrénie, dans sa manière pathologique, était cette accentuation spatiale. Alors, il le voyait, bien sûr, à titre individuel, et les psychiatres le voyaient également à titre collectif, puisqu'aussi bien, il y avait une relation qui était faite entre les mouvements de droite ou d'extrême droite, en France, c'était le pétinisme, bien sûr, qui mettait l'accent sur l'espace, sur le territoire. Et cela était schizophrénique. Voilà cette perspective que j'essaie d'indiquer. En bref, et je ne vais pas aller plus avant, le lien social était un lien historique. Voilà, ma première partie. Moi, je pense qu'il y a, et du coup, si vous voulez, cette conception aboutissait à une perspective qui était dans le sens strict, dans le sens étymologique. Une conception métaphysique. Quand je dis métaphysique, c'est-à-dire au-delà de la physique. Qu'est-ce que c'était le corollaire de cette conception métaphysique? Ça a été, jusqu'à maintenant, moi je pense que c'est en train de changer actuellement, une dévalorisation du corps. Parce que le corps, c'est de l'espace. Et que dans le fond, cette dévalorisation du corps était la conséquence logique de la conception historique du monde. Et je m'appuie ici sur, bien sûr, l'analyse de Heidegger en philosophie, quand il montre en quelque sorte comment c'est cette conception métaphysique qui va aboutir à la dévastation du monde, au saccage écologique. Lui ne dit pas saccage écologique, il dit dévastation du monde. Mais dans le fond, il faut bien savoir que cette thématique de la dévastation du monde s'inscrit dans cette grande conception métaphysique. J'ai bien dit, un dépassement de la physique sous ses diverses formes. Je pense qu'il faut d'ailleurs aller un peu plus loin et montrer que, corrélativement à cette dévastation du monde, il y a pu avoir une dévastation des esprits, c'est-à-dire l'incapacité, l'impossibilité de vivre ensemble. Et qu'il y a une relation à faire entre les saccages écologiques et puis l'aspect inhumain de la ville moderne. À l'époque, j'avais écrit un petit texte là-dessus, sur cette idée de la grégaire solitude. C'est-à-dire à la fois qu'il y avait de la solitude dans les villes, mais qu'elle était grégaire. En jouant sur cet oxymore de grégarité et de solitude. Voilà, je dirais, ce qu'il en est de cette accentuation sur l'histoire. Alors, mon hypothèse, ce que j'essaie d'indiquer dans mes divers livres depuis maintenant une trentaine d'années, c'est qu'il y a une inversion de polarité. C'est ça que j'appellerai avec d'autres la postmodernité. J'ai bien dit tout à l'heure, pour moi, la postmodernité ne peut se comprendre qu'en référence à la pré-modernité. Et qu'il y a, en quelque sorte, pas un simple retour, mais une forme d'affleurement d'une plaque tectonique pré-moderne, païenne. Affleurement. L'idée d'affleurement en géophysique, c'est-à-dire qu'on voit une roche ancienne qui revient, qui refait surface. Pour moi, ce serait l'affleurement, en quelque sorte, de ce vieux socle culturel. La vraie culture. La modernité, de ce point de vue, là je reprendrai une idée de Nietzsche au début de la naissance de la tragédie, tout au début, les premières phrases de la naissance de la tragédie. La modernité va mettre l'accent sur la civilisation. Et je pense qu'il faut faire une distinction entre civilisation et culture. La civilisation, puisque j'ai cité Michel Foucault, la civilisation est un processus de domestication. Norbert Elias, lui, emploie le mot de curialisation. L'idée de curialisation, c'est aseptiser. C'est nettoyer. Le mot en français, curé, pas le curé, le prêtre, mais le curé, un ruisseau, c'est enlever la boue, la saleté. Et donc, la domestication, la curialisation, voilà ce qu'est la civilisation. Et je disais que je référais ici à Nietzsche, parce qu'il montre bien qu'il y a dans la culture quelque chose qui est de l'ordre du sauvage. Et je pense que la culture renvoie à ce processus pré-moderne, et à mon avis, il y a un retour culturel actuellement. Et quand je dis culture, dans ce sens simple, comment on mange, comment on s'habille, comment l'on habite, mais à partir de ses racines. Et dans le fond, la postmodernité, pour moi, serait ce retour culturel, je dis bien, avec la dimension un peu sauvage. D'ailleurs, j'ai même employé cette expression « ensauvagement du monde ». Et on pourra en discuter on a des quantités de manifestations de cet ensauvagement. La musique gothique, la musique techno des jeunes générations, c'est le retour du sauvage. Je dis, moi, tribal. Quand je mettais l'accent sur la tribu, c'était pour rendre attentif à cela. Mais c'est quelque chose qui est donc culturel. Et voilà la seconde partie, si vous voulez. C'est-à-dire comment il y aurait des formes, encore une fois, de réenracinement dans cette vieille dimension culturelle. Et de ce point de vue, la culture, la proposition que je fais est la suivante, et j'emprunte ce mot à un grand anthropologue qui a été mon maître et qui est Gilbert Durand, et il parle d'une Einsteinisation du temps. Alors, Einsteinisation du temps, c'est-à-dire un temps qui va se contracter en espace. Et c'est cette contraction du temps en espace qui me paraît être le propre de la culture. C'est en ce sens que je dis que la postmodernité est une spatialisation. Alors, la métaphore que j'emploie pour cela, c'était une métaphore que j'ai employée tout au début des années 70, que j'appelais l'enracinement dynamique, en jouant de l'oxymore. C'est-à-dire montrer en quelque sorte comment ces racines pouvaient avoir dynamisme, la dynamique, c'est une force, pouvaient avoir une force spécifique. Voilà un peu moi, mon hypothèse, en quelque sorte comment le lointain devient proche. Vous voyez, le lointain, c'était cette tradition que j'ai dite sotériologique, le télos, la téléologie. Alors, c'est intéressant par une espèce de paradoxe. Comment le téléphone, comment la télévision et tous les instruments technologiques du télos, c'est-à-dire du lointain, vont en quelque sorte approximer. J'emploie ici le mot de proxémie, qui est le concept de l'école de Palo Alto, en Californie. C'est-à-dire quand il réfléchit sur l'idée de proxémie, il montre la relation qui va exister entre l'environnement social et l'environnement naturel. Donc la nature, la culture, cette conjonction de la culture et de la nature. Et c'est cela, moi, ce sur quoi j'ai insisté quand je parlais de l'importance du présent. La sociologie, pour moi, de la vie quotidienne, c'est une sociologie du présent. Là, en son sens, en latin étymologique, préens, un étant là devant, préens. Et que cette grande catégorie du présent serait là une manière, bien évidemment, alternative à ce que j'ai appelé tout à l'heure la projection. Projection théologique, téléologique, historique, tout ce qui a été, soyons clairs, à l'origine d'une conception politique du monde. L'essence du politique. Alors que ce qui est en jeu, et pour moi c'est une de mes hypothèses concernant les pratiques juvéniles en particulier, c'est de voir comment il y a cet hédonisme ambiant, comment il y a un rapatriement de la jouissance, c'est-à-dire la jouissance n'est plus attendue pour demain, mais c'est une jouissance ici et maintenant, et c'est ce que j'appelle pour ma part espace et socialité. J'ai fait une distinction que je propose, n'est-ce pas ? Le social, cela, c'est de l'ordre historique. Le social, c'est un être ensemble rationnel. La socialité, à la différence du social, va intégrer des paramètres que le social avait laissé de côté, l'imaginaire, bien sûr, le ludique, l'onirique. Et c'est la conjonction de ces divers éléments qui vont constituer la socialité. Et la socialité, bien évidemment, va être en liaison avec la dimension spatiale, avec l'espace. Et c'est là où il faut voir comment, dans nos villes, et cette culture, pour moi, cette culture urbaine, qui rejoue ce qu'était la culture urbaine des cités grecques, ou des cités, disons, pré-modernes, d'une manière générale, vont remettre l'accent sur la dimension tribale. Et c'est pour cela, en effet, que j'ai parlé du pacte émotionnel, à l'opposé du contrat social. Alors, je ne sais pas comment, si vous utilisez ce mot en espagnol ou en galicien, le mot émotionnel. En français, c'est un néologisme. Et c'est un néologisme qui est d'ailleurs un néologisme qui a été emprunté à Max Weber dans la cinquième partie d'Économie et Société, et en allemand aussi, c'est un néologisme. C'est-à-dire que ce n'est pas une caractéristique psychologique. Émotif, ça c'est une caractéristique psychologique. Quand Max Weber utilise le mot émotionnel, c'est pour décrire une ambiance dans laquelle vont se structurer les tribus, la Gemeinschaft, Gemeinde, donc la communauté ou la commune. Et donc le terme émotionnel renvoie, je dis bien, non pas à une caractéristique psychologique, mais une dimension sociétale. Le terme qui conviendrait, alors bien sûr, nous avons, nous en français, une difficulté, parce que le mot ambiance ou le mot atmosphère sont des termes dévalorisés. Le terme allemand Stimmung, c'est l'atmosphère dans le sens du climat qui nous constitue, en quelque sorte, un climat spirituel, si je puis dire. Et le mot émotionnel, pour moi, serait ce qui est l'élément corrélatif de l'espace. Et c'est intéressant de voir comment nos villes, et c'est ça pour moi la culture urbaine, vont être des espaces émotionnels. Alors, un espace émotionnel sportif, musical, sexuel, religieux, consommatoire, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va voir comment les cités vont être en quelque sorte des espèces de successions de quartiers, des successions de villages, ce que j'ai appelé il y a un instant des successions de proxémie. On vit le proche avec d'autres, en fonction d'un goût, hein, je viens de dire, hein, un goût sportif, goût musical, goût religieux, goût sexuel, etc. Pour moi, la tribu, dans le fond, c'est simplement le partage d'un goût. Alors voilà ce qui serait, de mon point de vue, l'humanité urbaine. C'est cela qui me fait penser que le concept d'Ortega et Gasset, ratio-vitalisme, est un concept très pertinent, est un concept qui, justement, est particulièrement prospectif pour décrire cette émotionnalité multiforme. Mais bien évidemment, alors je le dis là, bien sûr, et vous c'est différent, mais je le dis à partir d'une critique de la position française, si on met l'accent là sur ce que je viens de dire, on n'est plus dans la conception de la République une et indivisible. Ça, c'était la grande idée jacobine, qui a été une belle idée, mais qui a évacué les espaces, les régions. Et je ne vais pas ici ça ne vous intéresse pas, mais on voit comment tout au long du 18e, 19e siècle, ce qui a été le jacobinisme français, d'abord le colbertisme, puis le jacobinisme français, a en quelque sorte évacué la dimension spatiale des régions, des villes, etc. Alors, moi, ce qui me paraît être en jeu dans la postmodernité, c'est une autre conception de la res publica. Non plus la république une et indivisible, mais la res publica, la chose publique. Une chose publique à partir de la différence. L'image, un terme anglais familier, patchwork, un terme qui, pour moi, a ma préférence, la mosaïque. La mosaïque, c'est dans le fond une cohérence à partir de la diversité, à partir des spécificités, à partir de l'enracinement culturel. Vous voyez, j'emploie le mot, hein, cohérence, ça tient ensemble. Mais c'est une cohérence, chaque partie de la mosaïque gardant sa forme, sa couleur, sa structure, etc. Et dans le fond, pour moi, voilà ce qui serait la conséquence de la fragmentation postmoderne, de la culture postmoderne, c'est-à-dire une liaison, un lien, mais un lien qui n'est plus a priori, mais a posteriori, si je le dis, en termes de logique. Alors, je donne une image. Vous souvenez que ce qui a été le postmodernisme architectural, 1950. C'est donc un architecte italo-américain, Robert Venturi, qui, pour la communauté italo-américaine, il faut toujours avoir cela à l'esprit, va élaborer une architecture qui n'est plus une architecture moderne. L'architecture moderne, c'est le Bauhaus, c'est-à-dire une architecture où on va réduire l'esthétique à sa simple fonctionnalité. C'est ça le Bauhaus, l'angle droit, en quelque sorte. En France, pour nous, ça va être le Corbusier. Niemeyer au Brésil, enfin bon, on va trouver et puis ça a été l'architecture dominante de la modernité. Et par parenthèse, d'ailleurs, c'est toujours intéressant de voir que une forme artistique devient canonique quand le support social est fini. 1930, c'est fini la modernité. Et c'est le moment, les années 30, le Bauhaus. Donc, c'est fini la modernité, et c'est à ce moment-là que se structure l'architecture moderne. Alors, le postmodernisme, dans la perspective de Venturi, je dis bien, le postmodernisme architectural, va reposer sur deux caractéristiques essentielles. Première caractéristique, on va, pour la construction des maisons, des villes, des places, etc., prendre, et je cite ici Venturi, on va prendre des citations diverses. Alors, une citation architecturale, ça veut dire une porte gothique, une fenêtre baroque, une autre pièce architecturale romane, etc. Donc, on va prendre des citations diverses, premièrement. Deuxième caractéristique, ces citations diverses, on va les prendre dans des endroits différents, à Florence, à Padoue, à Rome, dans un processus qui est ce qu'on appelle un processus d'anamnèse, mémoire, souviens-toi. Hein, j'ai bien dit, c'est pour la communauté italo-américaine. Donc il y a ces deux aspects, patchwork, mosaïque, et racine. Et c'est ça qui est la caractéristique du postmodernisme architectural. C'est cela que j'appelle, moi, l'enracinement dynamique. Et dans le fond, quand on veut réfléchir sur la postmodernité sociétale et donc cette culture en gestation, c'est exactement la même chose que je viens de dire. C'est-à-dire à la fois une construction en patchwork ou en mosaïque et en même temps quelque chose qui va s'appuyer sur ses racines. Racines que le progressisme moderne avait cru dépasser. Puisque dans le progressisme, dans le fond, il y a, dans le sens simple et étymologique du terme, quelque chose qui est une explication du monde. En latin, explicare, on enlève les plis. Et donc, dans le fond, la grande perspective, là, du rationalisme, de la raison souveraine, c'est qu'on va expliquer. Et les grands systèmes sociaux, la sociologie, mais toutes les sciences sociales, ont reposé sur cette conception d'expliquer. Et dans le sens que je viens de dire, on enlève les plis. Alors que la dimension que j'essaie ici d'indiquer, ben, c'est une dimension qui, au contraire, implique, dans le sens, là encore, étymologique. On va prendre au sérieux les plis. Ce que un philosophe français comme Gilles Deleuze, concernant le baroque, avait bien montré, le pli. C'est ce qu'on va retrouver dans de nombreux phénoménologues également, hein, qui mettent l'accent sur cette idée du pli. Mais le pli, ce sont les strates, c'est les couches, c'est le socle tectonique, dans le sens simple du terme, qui est celui qui est le socle tectonique de la culture. Et donc, dans le fond, pour moi, le processus d'implication renverrait à cette, encore une fois, superposition. Gardons ce mot simple, impliqué. Non plus expliqué, mais impliqué. Si je le dis avec un terme sociologique plus connu, une attitude compréhensive. Dans le sens, encore une fois, étymologique du terme, comprendere, en latin, c'est prendre tous les éléments caractéristiques de ce qu'on est à titre individuel et de ce qu'on est à l'être collectif, à bien des égards, qui repose, encore une fois, sur ce processus d'implication. Et alors c'est là où ma proposition est de dire, on n'est plus dans une simple conception logocentrique, mais qu'il y a du lococentrisme. Et que autant la perspective moderne serait logocentrique, voilà, la grande marche royale de la raison, autant ce recentrage sur l'espace nous amènerait dans une perspective qui, elle, serait lococentrique, hein, dans ce sens simple du locus, donc du lieu, en quelque sorte. En français, mais je sais qu'en espagnol, cela ne rend pas, moi j'ai parlé du « le lieu fait lien », en jouant sur l'euphonie entre ces termes. Comment, d'une certaine manière, c'est l'accentuation sur le lieu qui va constituer véritablement le lien social, le territoire sous ses diverses modulations, etc. Bon, je vais m'arrêter parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais il vaut mieux qu'on discute. Quelques minutes encore, parce que je vois que j'ai été plus bavard que je ne le voulais. J'ai parlé plus lentement, etc. Bon, alors je vais conclure une petite conclusion et je vais passer sur autre chose que je voulais dire, mais on pourra en discuter. Vous avez bien compris que dans l'hypothèse qui est la mienne, la civilisation va reposer sur le privilège de l'histoire, alors que la culture, dans le sens fort et vrai du terme, va reposer sur cette dimension qui est une dimension spatiale. C'est-à-dire que autant dans la civilisation et dans l'histoire, il y a en quelque sorte une abstractisation, dans le sens étymologique du terme, hein, on s'abstrait, on se retire. Et pour les raisons que j'ai dites tout au début, on se retire en fonction de quelque chose qui est à venir. Que ce soit la cité de Dieu ou la société parfaite qui est essentiellement abstractive. Il y a une très belle analyse que fait Thomas Kuhn dans les structures des révolutions scientifiques, et il montre que ce qui va être la performativité à un moment donné du modèle occidental à partir de sa source judéo-chrétienne, il dit lui judéo-chrétienne, bien c'est qu'elle va prendre, il le dit en latin, la via recta de la raison, voie droite, et que c'est pour aller droit au but. Et que pour aller droit au but, il emploie encore un mot latin, il dit « il faut déposer sur le bord de la route toute une série de bagages inutiles, impedimenta », donc ces valises qui empêchaient d'aller droit au but. Et donc ces bagages inutiles, ce sont ces bagages culturels, j'ai dit, l'imaginaire, le ludique, l'onirique, le festif. Toutes ces choses qui font, dans le sens simple du terme, ce lien culturel, dans le vrai sens du mot. Alors, voyez, moi, mon hypothèse, c'est de voir comment, en quelque sorte, on est en train de reprendre ces bagages inutiles, ces impedimenta. Et, vous voyez, par un processus de balancier. Alors, pas exactement un processus de balancier. C'est pour ça que j'ai hésité deux ou trois fois, si vous y avez été attentif. Pour moi, ce n'est pas un simple retour. Jusqu'alors, on avait deux images topographiques pour décrire notre rapport au monde. Soit la flèche, le progrès, soit le cercle, Hegel, Nietzsche. Et que dans le fond, il y avait ces deux grandes conceptions qui étaient le progressisme et une conception circulaire. L'hypothèse, moi, qui est la mienne, c'est la spirale. C'est-à-dire, ni la flèche, ni le cercle, mais le retour, pas exactement au même niveau. Et c'est le paradoxe et la seule définition que je me suis permis de donner de la postmodernité, synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, démultiplication des effets, archaïque dans le sens étymologique du terme, arché en grec, ce qui est premier, ce qui est fondamental, donc synergie de cet archaïque et du développement technologique, la tribu et Internet. Et il faudrait voir en quelque sorte comment ce que sont nos mégapoles, c'est l'expression véritablement de cette synergie-là, et c'est en quelque sorte cette synergie que j'ai traduit, enfin que je propose actuellement d'exprimer au travers, je ne sais pas si c'est un néologisme, enfin en tout cas une contraction de mots en disant écosophie, c'est-à-dire pour éviter la simple perspective écologique avec parfois la dimension un peu fanatique qu'il peut y avoir dans l'écologie. Au contraire, l'idée d'écosophie serait une manière d'avoir cette sagesse de la maison. Et comment, en quelque sorte, on aurait dans cette écosophie la conjonction à la fois du développement technologique et en même temps de ces vieux archaïsmes, de ces vieilles racines, ainsi que je le disais il y a un instant, l'homme gardien de cette maison et pas simplement dévastateur de la maison commune. Et je crois que c'est dans cette conception du gardien de la maison qu'on aurait peut-être ce qui est pour moi le vrai humanisme post-moderne, en jouant sur l'étymologie encore, eh bien montrer la conjonction qu'il y a entre l'humus et l'humain. et que dans le fond, on ne peut comprendre l'humain que si on prend au sérieux cet humus, hein, qui constitue ce substrat, qui constitue cette culture dans le sens que j'indiquais tout à l'heure. Voilà, chers amis, je vais m'arrêter là. Voilà ce qui était un peu des hypothèses. J'espère que ça vous aura permis de donner quelques réflexions et je serai à votre disposition, bien sûr, pour en discuter.
Merci beaucoup. Vamos a hacer un pequeño descanso y rematemos luego. Hacemos eso, descanso, yo tengo que rematar. Os dejo para ver.
C'est bon ça.
Oui, c'est vrai.